Il nous montra une grotte. Une maladie d'algues et de squelettes d'animaux marins naturels en plâtre, en pierre, je ne sais. On entrevoyait une naïade, enlacée à un taureau à la queue écailleuse de grands poissons bibliques, couchée au fil d'une eau qui coulait de la coquille qu'un triton tenait à la manière d'une amphore. J'aimerais que vous saisissiez la signification profonde de ce qui, autrement, ne serait qu'un banal jeu hydraulique. De Caus, savez bien que si l'on prend un vase, qu'on le remplit d'eau et qu'on ferme son ouverture, même si ensuite on fore un trou sur le fond, l'eau ne sort pas. Mais si on fait aussi un trou vers le haut, l'eau coule ou jaillit en bas. N'est-ce pas une évidence, demandai-je? Dans le second cas, l'air entre par le haut et pousse l'eau en bas. Explication scientiste typique, où l'on prend la cause pour l'effet, ou vice-versa. Vous ne devez pas vous demander pourquoi l'eau sort dans le second cas. Vous devez vous demander pourquoi elle se refuse à sortir dans le premier.
Et pourquoi elle se refuse? Demanda anxieux Garamond.
Parce que si elle sortait, il resterait du vide dans le vase. Et la nature a horreur du vide. Ne quaquam vacuit. C'était un principe rose-croix que la science moderne a oublié.
Impressionnant, dit Garamond. Cachaubon, dans notre merveilleuse histoire des métaux, ces choses doivent apparaître, je vous en prie, instamment. Et ne me dites pas que l'eau n'est pas un métal, de l'imagination, que diable!
Excusez-moi, dit Belboaglier, mais votre argument est post hoc ergo ante hoc, ce qui vient après cause, ce qui venait avant.
Il ne faut pas raisonner selon des séquences linéaires. L'eau de ces fontaines ne le fait pas. La nature ne le fait pas. La nature ignore le temps. Le temps est une invention de l'Occident. Tout en montant, nous croisions d'autres invités. Pour certains d'entre eux, Belbo donnait un coup de coude à Diotalevi qui commentait à voix basse. Eh oui, Faciès Hermetica. Ce fut parmi les pèlerins à Faciès Hermetica, un peu isolés, avec un sourire de sévère indulgence sur les lèvres, que je croisai Monsieur Salon. Je lui souris, il me sourit.
Vous connaissez Salon ? Me demanda Aglier.
Vous connaissez Salon ? Lui demandai-je à mon tour.
Pour moi, c'est normal, j'habite dans son immeuble. Que pensez-vous de ce Salon ?
Je le connais peu. Certains amis dignes de foi me disent que c'est un indicateur de la police.
Voilà pourquoi Salon était au courant pour les éditions Garamond et pour Ardenti. Quelle connexion y avait-il entre Salon et De Angelis ? Mais je me limitais à demander à Aglier « Et que fait un indicateur de la police dans une fête comme celle-ci »«
Les indicateurs de la police, dit Aglier, vont partout. N'importe quelle expérience est utile pour inventer les renseignements. Pour la police, on devient d'autant plus puissant qu'on sait plus de choses ou qu'on fait mine de savoir. » Et peu importe que ces choses soient vraies, l'important, rappelez-vous, c'est de posséder un secret.
Mais pourquoi Salon est invité ici, demandai-je.
Mon ami, répondit Aglier, probablement parce que notre hôte suit cette règle d'or de la pensée sapientiale, selon laquelle toute erreur peut être la porteuse méconnue de la vérité. Le véritable ésotérisme n'a pas peur des contraires.
Vous êtes en train de me dire qu'à la fin, ces gens sont tous d'accord entre eux. Quod ubique, quod ab omnibus, et quod semper. L'initiation est la découverte d'une philosophia perennis. Ainsi, philosophant, nous étions arrivés au sommet des terrasses, en empruntant un sentier au milieu d'un vaste jardin qui menait à l'entrée de la villa, ou castel, comme on voudra. À la lumière d'une torche plus grande que les autres, nous vîmes, montée sur le faîte d'une colonne, une jeune fille enveloppée d'une robe bleue semée d'étoiles d'or, qui tenait à la main une trompette, de celle que sonnent les héros dans les opéras. Comme dans un de ces mystères médiévaux où les anges font parade de leurs plumes en papier velin, la fille avait aux épaules deux grandes ailes blanches, décorées de formes amygdaloïdes marquées en leur centre par un point, et qui, avec un peu de bonne volonté, auraient pu passer pour des yeux. Nous vîmes le professeur Camestres, un des premiers diaboliques qui nous avait rendu visite chez Garamond, l'adversaire de Lordo Templi Orientis. Nous eûmes du mal à le reconnaître parce qu'il s'était déguisé d'une façon qui nous parut bizarre, mais qu'Aglier définissait comme appropriée à l'événement. Il était vêtu de lin blanc, les hanches ceintes d'un ruban rouge croisé sur la poitrine et derrière aux épaules, et un curieux chapeau de forme 17e sur lequel il avait piqué 4 roses rouges. Il s'agenouilla devant la fille à la trompette et dit quelques mots.
« C'est bien vrai, » murmura Garamond. « Il y a plus de choses dans le ciel que sur la terre. »
Nous franchîmes un portail historié qui évoqua pour moi le cimetière Staglieno de Gênes. En haut, sur une complexe allégorie néoclassique, je vis ces mots sculptés « Condeleo et Congratulor ». À l'intérieur, les invités étaient nombreux et animés qui se pressaient à un buffet dans un vaste salon d'entrée d'où partaient 2 escaliers vers les étages supérieurs. J'aperçus d'autres têtes non inconnues, entre autres Bramanti et, aux surprises, le commandeur des Gubernatis.
Acea déjà exploité par Garamond, mais sans doute pas encore placé devant l'horrible possibilité d'avoir tous les exemplaires de son chef-d'œuvre au pilon, parce qu'il s'avança à la rencontre de mon directeur en lui manifestant respect et reconnaissance.
Aglier eut droit au respect d'un type de taille menue qui se porta vers lui, avec des yeux exaltés. À son inconfondable accent marseillais, nous reconnûmes Pierre, celui que nous avions entendu accuser Bramanti de maléfice, derrière la porte du cabinet d'Aglier. Je m'approchai du buffet. Il y avait des carafes remplies de liquides colorés, mais je ne parvins pas à les identifier. Je me versai une boisson jaune qui semblait du vin. Ça n'était pas mauvais, avec un goût de vieux rossoli, mais c'était certainement bien alcoolisé. Il y avait peut-être quelque chose dedans. La tête commença à me tourner. Autour de moi se pressait une foule de faciès hermeticae, à côté de faces sévères de préfets à la retraite. Je saisissais les bribes de conversation.
Au premier stade, tu devrais réussir à communiquer avec d'autres esprits, puis projeter en d'autres êtres des pensées et des images, charger les lieux avec des états émotifs, acquérir de l'autorité sur le règne animal. Dans le troisième temps, tu essaies de projeter un double de toi dans n'importe quel point de l'espace. Bilocation, comme les yogis, tu devrais apparaître simultanément en plusieurs formes distinctes. Après, il s'agit de passer à la connaissance suprasensible des essences végétales. Enfin, tu essaies la dissociation. Il s'agit d'investir l'assemblage tellurique du corps, de se dissoudre en un lieu et réapparaître en un autre, intégralement, je dis, et non pas dans son seul double. Dernier stade, la prolongation de la vie physique.
Pas d'immortalité?
Pas dans l'immédiat.
Mais toi?
Il faut de la concentration, je te cache pas que c'est pénible, tu sais, je n'ai plus 20 ans.
Je retrouvai mon groupe au moment où ils entraient dans une pièce aux murs blancs et aux angles arrondis. Sur le fond, comme dans un musée Grévin, mais l'image qui affleura à mon esprit ce soir-là fut celle de l'hôtel que j'avais vu à Rio dans la tente des Ubanda, 2 statues presque grandeur nature en cire, revêtues d'une matière scintillante qui me parut digne d'un très mauvais accessoiriste. L'une était une dame sur un trône, avec une robe immaculée, ou presque, constellée de paillettes. Au-dessus d'elle descendaient suspendues à des fils des créatures de forme imprécise, qui ressemblaient à ces poupées de Lensi en feutre, servant d'ornement autrefois. Dans un coin, un amplificateur laissait parvenir un son lointain de trompette, celui-ci de bonne qualité, sans doute un air de Gabrielli, et l'effet sonore était d'un goût plus sûr que l'effet visuel. Sur la droite, une autre figure féminine, habillée de velours cramoisi, ceinturée de blanc, et coiffée d'une couronne de laurier, à côté d'une balance dorée. Aglier nous expliquait les diverses références, mais je mentirais en disant que j'y prêtais beaucoup d'attention. M'intéressait plutôt l'expression de nombreux invités qui passaient d'un simulacre à l'autre avec un air révérencieux et ému.
Ils sont pas différents de ceux qui vont dans un sanctuaire voir la Vierge Noire aux robes brodées et recouvertes de cœurs en argent, dis-je à Belpo.
Ils pensent peut-être que c'est là la mère du Christ en chair et en os.
Non, mais ils ne pensent pas non plus le contraire. Ils se plaisent à la similitude. Ils sentent le spectacle comme vision et la vision comme réalité.
Oui, dit Belbo. Mais le problème n'est pas de savoir si ces gens sont meilleurs ou pires que ceux qui vont au sanctuaire. J'étais en train de me demander qui nous sommes, nous. Nous qui croyons Hamlet plus vrai que notre concierge. Ai-je le droit de les juger, eux? Moi qui rôde à la recherche de Madame Bovary pour lui faire une scène.
Diotalevi hochait la tête et me disait à voix basse qu'on ne devrait pas reproduire d'images des choses divines, et que celles-ci étaient toutes des épiphanies du veau d'or. Mais ça l'amusait.